Il y a parfois des versets de l'Écriture que l'on, sous lesquels on passe sans trop faire attention ou sans peut-être prendre le temps de les méditer ou de les approfondir. Et nous avons fait cela quand nous avons parcouru un peu 1 Pierre. Et il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 4 dont nous n'avons pas parler. Et 1 Pierre chapitre 4, je vous demande d'ouvrir votre Bible en 1 Pierre chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 7. Nous avions considéré la fin, nous lisons « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez un ardent amour les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le verset 9 est un verset que nous avons lu sans prendre le temps de nous y arrêter. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et l'hospitalité est un thème dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui traverse toute l'Écriture. Il y a autant des exhortations à l'hospitalité dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas ce que vous entendez par hospitalité, mais le mot ici qui est traduit par hospitalité, c'est un mot qui est composé de deux mots. Dans l'original, le mot philos et le mot xénos, donc ça vous dit déjà quelque chose. Xénophobie, hein, ça vous rappelle quelque chose, c'est la haine de l'étranger. Et puis philéo, c'est amitié, amour. Donc hospitalité, c'est l'amour de l'étranger. Je crois que dans nos pays, on en parle beaucoup, hein, on vit au milieu de beaucoup d'étrangers. Nous sommes pour la plupart des étrangers par rapport à la nationalité française, et même quand on est étranger, on trouve qu'il y a des plus étrangers que nous. Et souvent, les choses ne se passent pas toujours bien. On ne peut pas dire que naturellement, on a un amour ou une attirance pour les étrangers. Mais déjà dans l'Ancien Testament, si vous lisez, Dieu parle de l'étranger et de l'amour qu'on doit avoir pour l'étranger. Certes, il dit que nous devons aimer même nos ennemis. Mais en Lévitique, chapitre, ou en Deutéronome, on trouve ça aussi, hein, Deutéronome 10, 19, par exemple, je vais le lire, il dit, « Vous aimerez l'étranger, il parle à son peuple, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Et puis, quand on lit Job, par exemple, hein, quand il plaide sa cause devant Dieu, quand il dit, et pour montrer qu'il a agi justement, il dit ceci en Job 31-32, il dit « L'étranger ne passait point la nuit dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. J'ai exercé, dit-il, l'hospitalité. » Et puis, dans le Nouveau Testament, on trouve aussi, notamment le verset que nous venons de lire, mais nous trouvons aussi beaucoup d'exhortations ou d'allusions à l'hospitalité. Alors la question pour nous ce matin est la suivante, que dire de notre hospitalité aujourd'hui? Qu'en est-il de nous? Comment parlons-nous les uns des autres, de l'étranger? Nous qui sommes nous-mêmes étrangers, comment notre maison s'ouvre-t-elle aux autres? Comment accueillons-nous les autres? Est-ce même une question importante pour nous? Et notre texte ce matin dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Et on trouve à peu près la même chose dans Romains chapitre 12 et au verset 13 où l'apôtre Paul dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité ». Alors le titre du message ce matin, c'est « Faire preuve d'hospitalité les uns envers les autres ». Et nous voulons considérer dans un premier temps la nature de l'hospitalité, la nature de l'hospitalité chrétienne. L'hospitalité dont parle Pierre ici est l'hospitalité chrétienne qui est en étroite relation avec l'Évangile, le salut, la régénération, l'amour. Il dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres » et puis tout de suite après il dit « Exercez l'hospitalité ». Et il avait déjà parlé de l'amour, hein, si vous vous souvenez bien. En 1 Pierre, je vous lis 1 Pierre chapitre 1 et au verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et puis il dit la raison pour laquelle on doit s'aimer de tout notre cœur. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et au verset 25, il dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Donc l'hospitalité, c'est une question d'Évangile. C'est lié à ce qu'il dit dans toute cette section. Il montre où il doit s'aimer ardemment et il dit que l'amour vient d'un cœur qui a été régénéré par la parole de l'Évangile. Et donc, quelle est la nature de l'hospitalité? Premièrement, on pourrait souligner quel est le reflet, l'hospitalité, c'est le reflet, l'hospitalité chrétienne, c'est le reflet de l'hospitalité de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. On peut noter le grand cas que fait l'Ancien Testament de l'hospitalité, et on l'a dit tout à l'heure aussi, et même le Nouveau Testament. Mais je vous lis un verset dans l'Ancien Testament où Dieu parle de l'hospitalité. Il dit, Lévitique, et qui ressemble à ce que nous avons lu tout à l'heure, il dit en Lévitique 19, 34, « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, Dieu fait, on pourrait dire ici, de l'expérience d'étranger du peuple d'Israël, une motivation pour accueillir, une raison pour accueillir l'étranger, pour aimer l'étranger comme soi-même. Mais il va plus loin, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il ne faut pas oublier cette partie du verset. Et donc, pourquoi est-ce qu'il dit cela? C'est parce que ce n'est pas juste vous aimerez l'étranger parce que vous avez été étranger. Le fait d'avoir été étranger n'est pas une motivation suffisante pour aimer l'étranger. Il dit, vous aimerez l'étranger parce que vous avez été étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu, sous-entendu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et donc, il est en train de dire, vous avez été étranger et moi, je vous ai accueilli. Je vous ai sorti du pays de la servitude pour vous amener à moi. Dieu est celui qui a exercé l'hospitalité envers le peuple d'Israël. Le peuple autrefois étranger a été délivré par Dieu et Dieu l'a accueilli. Et tel Dieu a agi envers lui, eh bien Dieu veut que ce peuple agisse aussi envers les autres en exerçant envers eux l'hospitalité. Et on a la même chose dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'image de l'hospitalité sert à illustrer, on pourrait dire, l'œuvre du salut. C'est utilisé comme une métaphore du salut. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 19, je vous lis ce verset, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. » Il parle des chrétiens maintenant, et un peu plus tôt dans le passage, il dit « Vous qui étiez autrefois étrangers, gens du dehors, étrangers aux alliances de la promesse. Il dit maintenant, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est une image de l'hospitalité, ça. Vous n'êtes plus dehors, vous êtes maintenant à l'intérieur. Vous avez été accueillis dans la maison de Dieu. Et donc, le salut s'exprime ici en termes d'hospitalité. Mais notez aussi la promesse même que Jésus fait à ses disciples, à nous. Il dit en Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures où ? Dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place où ? Faire une place dans son foyer, dans sa maison, à côté de lui. Il dit, je m'en vais vous faire une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour quoi faire et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est l'image forte de l'hospitalité, cela. Dieu est celui qui est hospitalier par excellence. Et ce qu'il est, il veut que nous le soyons aussi. C'est pour cela qu'il dit au peuple d'Israël, vous avez été étranger, vous aimerez l'étranger parce que vous avez été étranger, vous serez hospitalier parce que vous avez été étranger. Parce que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a accueilli. Et tel je vous ai accueilli, vous devez aussi les accueillir. Et il dit la même chose au Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit dans Romains 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Vous avez été l'objet de l'hospitalité de Jésus-Christ, alors exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Donc pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on aime ? Parce qu'il est amour. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit saint ? Parce qu'il est saint, vous serez saint car je suis saint. Pourquoi Dieu veut que l'on soit parfait ? Parce qu'il est parfait, vous serez céleste et parfait comme votre Père céleste est parfait. Et pourquoi Dieu veut qu'on soit hospitalier ? Parce qu'il est lui-même hospitalier et que cette grâce qu'il a manifestée envers nous, c'est son hospitalité qu'il a manifestée envers nous, en nous accueillant, nous qui étions des étrangers. Et c'est ce que Pierre dit ici, au début de son épître, qu'il dit, il écrit à des gens qui sont étrangers et voyageurs sur la terre. Et puis il le demande maintenant de s'accueillir les uns les autres. Donc quand les chrétiens s'accueillent, ils sont des étrangers qui s'accueillent entre eux ici. Donc l'hospitalité chrétienne est le reflet de l'hospitalité de Dieu dans l'œuvre de la grâce, dans l'œuvre de la rédemption. C'est ce que nous sommes en train de considérer dans cette nature de l'hospitalité. Mais un deuxième aspect de la nature de l'hospitalité, c'est que l'hospitalité, c'est l'implication même de l'œuvre de la grâce. L'hospitalité s'impose à elle-même lorsqu'on a été l'objet de la grâce de Dieu. L'Écriture regorge d'exemples qui nous témoignent que l'hospitalité se manifeste là où l'Évangile pénètre. Quand l'Évangile pénètre quelque part, l'hospitalité se manifeste. C'est les exemples qu'on a dans le Nouveau Testament. À la Pentecôte, par exemple, lorsque l'Esprit descend sur les premiers disciples, les premiers chrétiens, les gens se convertissent, sont baptisés. Qu'est-ce qui se passe ? La première manifestation, c'est que leur maison s'ouvre, ils prennent leur nourriture chaque jour dans les maisons. D'accord ? Ils se réunissent, ils partagent leurs biens, ils prennent soin les uns des autres. C'est une image là de l'hospitalité. Mais souvenez-vous de Lydie, Lydie la marchande de pourpre à Philippe. Lorsque l'évangile pénètre en Europe, c'est ça, Philippe c'est en Europe, on est en Macédoine. Lorsque l'évangile pénètre en Europe, eh bien la Bible nous dit que cette femme, Dieu lui ouvre le cœur pour qu'elle comprenne, pour qu'elle saisisse, pour qu'elle soit attentive à ce que l'apôtre Paul dit. Et puis le texte dit qu'elle se fait baptiser. Et quand elle a été baptisée, elle dit à toutes ces personnes, je pense à Paul et à Silas en particulier, entrez dans ma maison. Dieu lui ouvre le cœur et le résultat, c'est qu'elle ouvre sa maison pour accueillir les frères et sœurs et les serviteurs de Dieu. Ici, lorsqu'un cœur est ouvert par l'évangile du Seigneur, la maison s'ouvre aussi. C'est ça que l'Écriture nous apprend ici. Mais on peut, quelques jours plus tard, dans la même ville, rappelez-vous l'expérience dans la prison, lorsque Paul est avec le geôlier, et qu'il y a un tremblement de terre, etc. Le geôlier vient vers Paul et puis lui dit, « Qu'est-ce faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul lui annonce l'évangile. La Bible dit qu'il se fait baptiser aussi, reçoit l'évangile. Et tout de suite après, il dit, le texte dit, « Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. » Acte 16, verset 34. Il reçoit l'évangile, et l'une des premières manifestations, évidence de cette acceptation de l'évangile, de cette pénétration de l'évangile, c'est l'exercice de l'hospitalité. L'hospitalité est le fruit de l'œuvre de la grâce dans le croyant. Et un auteur a dit ceci, il a dit que le christianisme est la religion de la porte ouverte. Le christianisme est la religion de la porte ouverte. Troisième aspect de cette nature de l'hospitalité, c'est qu'elle est l'expression concrète et forte de l'amour ardent du chrétien. Pierre commande aux chrétiens, aimez-vous ardemment. On avait dit que ardemment, ça veut dire, le mot ardent, c'est un mot qui veut dire, qui s'étire, c'est comme un muscle qui s'étire, donc il y a une tension et qui s'étire pendant longtemps. Donc il y a à la fois une intensité et une continuité dans cet amour. Et il dit tout de suite, après avoir exprimé cela, il donne une expression de cet amour ardent, il dit « exercer l'hospitalité ». L'hospitalité est l'expression concrète et forte de l'amour ardent du chrétien. Il y a un lien que Pierre fait ici entre l'amour ardent et l'hospitalité. C'est comme si Pierre disait « aimez-vous ardemment les uns les autres ». Enfin, je veux dire « exercer l'hospitalité ». C'est comme s'il disait ça, les uns envers les autres. Et à plusieurs endroits dans l'Écriture, on voit ce lien entre l'amour et l'hospitalité. Hébreux, je vous lis quelques versets, trois passages en particulier. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2, il est dit « persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. » Voyez, c'est le contexte de l'amour. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Voyez, il parle donc de l'amour fraternel. Et tout de suite, il colle à cela l'hospitalité. C'est une expression de l'amour fraternel. Romains chapitre 13, verset 9. Je vais lire Romains chapitre 13 et à partir du chapitre 12 plutôt, je crois. Hein. Romains chapitre 12 à partir du verset 9, on peut lire ceci. Il dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. » Verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. » Voilà le contexte de ce que Paul dit ici. Et puis au verset 13, il dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. » Là encore, l'hospitalité vient dans le contexte de l'amour fraternel, l'amour fort les uns pour les autres. Mais on a un exemple de quelqu'un qui manifeste dans la Bible l'hospitalité, c'est Gaius hein, dans 3 Jean. Je vous lis, là, ne cherchez pas, 3 Jean, chapitre, versets 5 et 6, il n'y a qu'un seul chapitre, hein, 3 Jean, versets 5 et 6, il dit, Jean écrit à, et il dit, « Bien-aimé, à Gaius, bien-aimé, tu as agi dans ce que tu as fait, fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères, et même pour les frères étrangers. » On retrouve encore notre amour de l'étranger ici. lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Quand on lit, on voit qu'il les a accueillis, qu'il les a reçus. Il a exprimé l'hospitalité. Mais regardez ce que Jean dit. Il dit, tu as agi pour les frères, même pour les frères étrangers, etc. Tu les as reçus. Lesquels, ces frères, ils ont rendu témoignage de ton hospitalité? Pas du tout. Ils ont rendu témoignage de ton amour. Pour eux, c'était de l'amour. Pourquoi? Parce que l'hospitalité est une expression concrète de l'amour. Un auteur a dit ceci, il s'appelle Stroh Alexander, il a dit, dans un livre qui est consacré à l'hospitalité, il dit « L'hospitalité est de manière unique la manifestation personnelle et sacrificielle de l'amour. Par le ministère de l'hospitalité, nous partageons nos biens les plus précieux, nous partageons notre famille, nous partageons notre maison, nous partageons nos finances, nous partageons notre nourriture, nous partageons notre intimité, nous partageons notre temps. » Voilà pourquoi c'est difficile, l'hospitalité. On peut partager l'argent, ça c'est vite fait. On peut partager un peu de temps. Mais l'hospitalité, mais tout ça ensemble. Hein? C'est-à-dire, c'est à la fois l'argent, le temps, le dérangement, l'intimité, c'est toutes ces choses-là en même temps. Et c'est pour cela que c'est une expression forte et concrète de l'amour ardent. L'amour est un concept qui demeure souvent bien vague, n'est-ce pas? On peut le prononcer, c'est sur nos lèvres. On dit oui, il faut nous aimer, on s'aime. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, on peut dire des choses comme cela. Mais la Bible nous dit que nous devons apprendre à aimer non en parole et avec la langue seulement, mais par des actions et en vérité. Et l'hospitalité est une de ces actions par lesquelles on peut aimer et qui prouve la réalité de l'amour. Et en ce sens, l'hospitalité, c'est l'expression forte de l'amour ardent, de l'amour sacrificiel, car elle touche à beaucoup d'aspects de notre vie. Ça, c'était juste pour parler un peu, c'est pas exhaustif, mais de la nature de l'hospitalité. Laissons-nous voir deuxièmement la portée de l'hospitalité chrétienne. La portée de l'hospitalité chrétienne. Premièrement, elle est un soutien en temps de crise. Rappelez-vous que le contexte de 1 Pierre, ici, chapitre 4 et au verset 7, il dit... La fin de toute chose est proche. On est dans un temps de souffrance, de crise. On va vers la fin de toute chose. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on parvient dans ces temps-là? Il faut exercer l'hospitalité. La portée de l'hospitalité, c'est qu'elle est un soutien en temps de crise. Et Pierre veut que les chrétiens se soutiennent par ce moyen-là. Lorsqu'ils vont être en proie à la critique, comme on l'a vu dans l'épître, à la souffrance, au travail, avec le patron, dans le couple, parce que il y a un qui n'est pas chrétien. Eh bien, il dit ce dont nous avons besoin, ce dont vous avez besoin, c'est d'exercer un amour fraternel sincère qui implique l'hospitalité, l'accueil chez vous de ces personnes qui sont dans le besoin affectif, peut-être dans le besoin économique ou dans d'autres besoins. Deuxième portée, c'est que, pas forcément ici dans ce texte, mais l'hospitalité permet l'exercice, oui, dans ce texte encore toujours, l'hospitalité permet l'exercice des dons spirituels. On le voit juste après, Pierre dit, ici, hein, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Et puis après, il parle du service. Il dit ceci, il dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Comment puis-je mettre de manière efficace au service des autres le don que j'ai reçu? Eh bien, en les recevant, en exerçant vers eux l'hospitalité. C'est ce qu'il est en train de dire ici. L'hospitalité est vue comme un moyen par lequel on met ses dons au service des autres. Parfois on dit, mais quel est mon don? Je voudrais servir dans l'église. Tu peux le faire par l'hospitalité, c'est ce que Pierre dit ici. Tu peux le faire par l'hospitalité. L'hospitalité a une grande portée aussi en fait, dans le fait qu'elle affecte directement Jésus-Christ. L'hospitalité touche particulièrement Jésus-Christ. Qui ne voudrait pas servir Christ ici? Si on disait qui veut servir Christ, tout le monde lèverait la main. Qui ne voudrait pas accomplir de grandes choses à son égard? Servir le Seigneur, comme on dit souvent. Je veux servir le Seigneur. Je suis là pour servir le Seigneur. Nous sommes là tous au service du Seigneur. Eh bien, écoutez ce que Dieu dit dans Matthieu. Seigneur lui-même dit dans Matthieu. On va lire chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et nous pouvons lire à partir du verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, il mettra les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il parle de ses enfants ici. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, hospitalité, et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu à visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. De même que Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsqu'il persécutait les chrétiens, il dit, chaque fois que l'on fait du bien, que l'on accueille l'étranger, que l'on accueille les frères et sœurs, il parle de ses enfants, hein. Il parle d'accueillir ceux qui sont ses enfants ici, quand on accueille ses enfants, il dit, c'est lui que l'on accueille. Quand on les sert, c'est lui que l'on sert. Quand on leur donne à manger, c'est lui qu'on donne à manger, à lui qu'on donne à manger. Quand on leur ouvre notre foyer, puisque c'est ce dont il est question ici pour nous ce matin, c'est à lui qu'on ouvre notre foyer. Vous voyez ça? Ça, c'est la portée de l'hospitalité. Celui qui me reçoit, il disait dans Matthieu chapitre 10, 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc on pourrait dire, si on applique ça à l'hospitalité, eh bien, celui qui reçoit l'enfant de Dieu en qualité d'enfant de Dieu, parce qu'il est un enfant de Dieu, eh bien, il reçoit Christ. Recevant Christ, il reçoit Dieu lui-même. Voilà quelle est la portée de l'hospitalité. Et puis, l'hospitalité a aussi une portée missionnaire, hein. Dans 3 Jean verset 8, on n'a pas lu la suite ici, mais dans 3 Jean verset 8, l'apôtre dit, après avoir parlé de Gaius, hein, il dit, nous devons, je vais quand même lire ça, 3 Jean verset 8, il dit ceci, il dit déjà au verset, je ne sais pas dans 3 Jean, au verset 7, 6, il dit, lesquels ont rendu de ton amour, témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage de manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes, afin d'être quoi ? Ouvriers avec eux pour la vérité. Vous voulez être missionnaire ? Vous ne pouvez pas partir dans un pays. Il y en a qui aimeraient faire cela, n'est-ce pas ? C'est une manière de dire, voilà, je sers Dieu, j'ai quitté ce que j'ai, puis je suis allé servir Dieu. Eh bien, le texte nous dit ici que celui qui reçoit un serviteur de Dieu devient collaborateur dans la mission. Il devient un missionnaire. Il devient un participant. Celui qui accueille de tels hommes, il devient co-ouvrier dans l'œuvre missionnaire, un associé à la propagation de l'Évangile. Il est ouvrier avec eux. Et ça, c'est important de considérer cela. L'hospitalité est un outil d'une puissance insoupçonnée. Insoupçonnée. Et par le fait d'ouvrir sa porte, Lydie a été associée à la propagation, à la pénétration, à l'implantation de l'Évangile en Europe. Le geôlier aussi. Simplement parce qu'elle a accueilli Silas, Paul, chez elle. Elle a participé à cette œuvre. Elle a participé à cette œuvre. Et puis, l'hospitalité attire aussi des conséquences. Alors, on peut prendre ce texte que je vais lire autrement, mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, versets 40 et 41, il dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Vous voyez ici, il y a une récompense attachée au fait de recevoir. Une récompense spirituelle, si. Bien sûr. Par le fait qu'on peut même, pour les gens qui sont pas au Seigneur, peuvent recevoir Christ, mais pour un chrétien de recevoir un autre en cette qualité, il participe aussi, il y a une récompense que Dieu lui réserve. Ça, c'est pour parler un peu de la portée de l'hospitalité. Mais laissez-moi terminer avec la pratique de l'hospitalité chrétienne. Pierre dit dans notre verset, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Alors, comment est-ce qu'on doit pratiquer l'hospitalité ? Premièrement, en considérant l'hospitalité comme un devoir. C'est un devoir qui incombe à chaque croyant. Il dit « exercer l'hospitalité les uns envers les autres ». C'est un commandement qui est donné ici. On a lu dans 3 Jean 8, nous devons accueillir. Pas il serait bien que nous accueillions. Nous devons accueillir. Et on voit Paul qui parle par exemple aux églises, qui dit, si un tel vient chez vous, qu'est-ce que vous faites ? Accueillez-le. Il donne un ordre. Il peut donner ce commandement parce que c'est un devoir. Quand il veut aller chez Philémon, vous lisez l'épître au Philémon, il dit, prépare-moi un logement. J'arrive. Imaginez que quelqu'un vous écrive, il dit, écoute, prépare-moi une chambre, j'arrive bientôt. Il se prend lui quand même, il exagère un peu. Eh bien, Paul dit ça à Philémon. Il dit, prépare-moi une chambre, j'arrive. Et Philémon le fait. Parce que c'est tout naturel, c'est normal. Le chrétien exerce l'hospitalité. Alors, bien sûr, on ne va pas le dire comme cela. J'exagère un petit peu, mais c'est une manière de dire qu'il s'attend à ce que ça soit fait. C'est un devoir que nous avons. C'est un commandement. Un peu plus loin dans 3 Jean, l'apôtre Jean décrit l'attitude de Diotrephe. Et il dit que Diotrephe, vous savez comment il le décrit Diotrephe ? Je vous lis ça parce que c'est très intéressant aussi. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, Diotref, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il n'exerce pas l'hospitalité. Il ne veut pas. Et il dit, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de mauvais propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Encore une fois, il dit deux fois, il n'exerce pas l'hospitalité. Et ceux qui voudraient recevoir les frères, il les en empêche et il les chasse de l'église. Il dit, bien aimé, n'imite pas le mal. L'apôtre Jean appelle cela le mal. Le fait de ne pas recevoir et d'empêcher de recevoir, il appelle ça le mal. Et il dit, n'imite pas le mal, mais le bien. Sous-entendu, imite Gaius qui lui reçoit les frères, même les frères étrangers, et qui prend soin d'eux. Donc c'est un devoir. C'est un devoir tellement important que l'apôtre Paul dit que c'est un critère pour la qualification des anciens. C'est-à-dire, il dit à une église, lorsque vous choisissez un ancien, un critère que vous ne devez pas oublier, c'est est-ce qu'il est hospitalier? C'est ce qu'il dit. 1 Timothée 3:2, il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. C'est important. Donc c'est une manière de le pratiquer en se la considérant comme un devoir qui nous incombe. Une autre manière de le pratiquer, c'est en recherchant l'hospitalité activement. Dans Romains 12, 13, quand il dit « pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité », ici le verbe « exercer » est traduit parfois par « persécuter ». Quand vous persécutez, c'est ce que vous faites. Vous poursuivez. L'apôtre Paul était un persécuteur de l'évangile. C'est le même mot qui est utilisé quand il dit « j'étais persécuteur de l'évangile ». Il poursuivait les croyants pour les arrêter, pour les attraper. Il poursuivait jusqu'à ce qu'il les attrape. Il dit bien « poursuivez l'hospitalité jusqu'à ce que vous l'exerciez ». C'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut intentionnellement le chercher et chercher à le pratiquer. C'est courir vers l'hospitalité. Le même auteur que je vous ai cité tout à l'heure cite quelqu'un d'autre qui s'appelle Jean Murray qui dit « Nous devons rechercher activement l'hospitalité et non nous contenter de l'offrir. » Peut-être à contre-cœur. Et puis quand on n'a pas d'autre choix que de l'exercer. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire par dépit, il faut le faire intentionnellement en le recherchant. C'est ça que le texte souligne ici, avec cette attitude que l'on doit rechercher, que l'on doit pratiquer l'hospitalité. Et on doit la pratiquer aussi en n'étant pas négligent. Hébreux 13, 2 dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va oublier facilement. On va être négligent dans ce domaine. On aura terminé le culte, et puis la première chose qui nous viendra à l'esprit, c'est de rentrer chez nous, de nous reposer, prendre un café, et puis on aura oublié les autres. Peut-être ceux qui ont besoin d'être reçus et d'être accueillis pour un repas, pour un temps d'échange, pour un temps de prière. À travers l'hospitalité, on cherche à répondre aux besoins des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas être négligent, à servir les autres dans leurs besoins, à être une bénédiction pour les autres. Et donc dans ce sens, l'hospitalité, ce n'est pas simplement le fait de recevoir les gens qu'on aime bien. La famille, il faut les recevoir. Mais c'est les gens qu'on ne connaît pas bien. Il ne faut pas être négligent de le faire. Il faut penser à le faire. Jésus disait à quelqu'un, ceci dit, lorsque tu donnes à dîner, à souper, il parle à quelqu'un qu'il avait invité, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes voisins, riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende là pareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre là pareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. L'argument de Jésus ici, c'est de dire que, c'est pas de dire qu'il ne faut pas inviter ses proches, bien sûr, Mais c'est de dire que l'hospitalité ne doit pas être vue comme un motif de réciprocité. Hein. Je t'invite et tu m'invites. Et après, d'accord, parfois on fait comme ça, hein, on s'invite en boucle, on a un petit groupe d'amis, puis ça tourne toujours en boucle, anniversaire celui-ci, anniversaire celui-là, et puis c'est toujours avec les mêmes qu'on tourne, comme les chaînes d'information tournent en boucle, nous, on a une hospitalité qui tourne en boucle, ça peut nous arriver. Il dit non, c'est pas comme cela que ça doit faire, on doit pas être négligent dans ce domaine, on doit réfléchir, on doit regarder les besoins, et peut-être ceux qui ont des besoins, les viser pour pouvoir les avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas inviter la famille, mais ça veut dire qu'on doit être soucieux des besoins des autres et ne pas être négligent dans ce domaine. Il y a des besoins qui sont des besoins matériels et des besoins qui sont des besoins spirituels. Et je crois que Aquilas et Priscille, ils ont reçu Apollos chez eux. Apollos qui était un docteur, hein, qui avait des connaissances, ils l'ont reçu chez eux, n'est-ce pas? Et puis ils lui ont expliquer plus droitement la parole de la vérité. Parce qu'il y avait une petite déficience dans sa manière de considérer les choses. Mais ils l'ont fait, ils l'ont reçu pour l'aider spirituellement. D'accord. Ils ont eu un ministère, ils n'étaient pas des apôtres, mais ils avaient une connaissance, peut-être ils avaient fréquenté Paul, ils avaient une connaissance qui pouvait servir à d'autres. Ils ont pris à part, la Bible dit qu'ils ont pris à part avec eux, le couple a pris à part avec eux, Apollos, et puis ils les ont apporté cette connaissance. Et puis, je dis aussi qu'on doit pratiquer l'hospitalité en cultivant une attitude de cœur et pas seulement un acte extérieur. C'est ce que l'apôtre Pierre dit quand il dit « Exercez l'hospitalité sans murmure ». Ça veut dire que l'hospitalité, naturellement, engendre ou conduit à des murmures. L'hospitalité conduit à des murmures. Et il dit qu'il faut être dans une attitude qui ne murmure pas. Ces murmures arrivent parfois à cause du coût de l'hospitalité, le dérangement que ça cause. Dérangement de mon intimité, la nécessité de faire des choses, le temps que je vais dépenser, le fait de recevoir quelqu'un qui m'a causé du tort peut-être, le fait d'avoir à ma table quelqu'un qui ne parle pas ma langue, qui c'est compliqué, d'accord ? Donc on a Ça demande à faire des efforts, quelqu'un que nous ne connaissons pas bien, la vaisselle qui va s'entasser dans la cuisine, etc., le lit supplémentaire qu'il faut préparer, les meubles qu'il faut pousser parce qu'il faut trouver un coin pour faire dormir. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que on peut le faire en disant « J'espère que la prochaine fois, quelqu'un d'autre prendra ce frère parce que moi, j'en peux plus. » C'est ça veut dire. On fait, mais on murmure. On maugrait dans sa barbe. Et Pierre dit ici qu'il ne faut pas exercer l'hospitalité avec murmure. Sans murmure indique que ce qui est recherché avant tout, c'est une attitude qui accepte le dérangement volontiers. Une attitude qui accepte la cuisine sale. Une attitude qui accepte le bruit des enfants quand ils ne sont pas les nôtres. Même quand ils ne sont pas les nôtres, qui acceptent les draps supplémentaires à laver et puis tout ce que vous voulez. J'ai trouvé un petit texte d'un homme qui s'appelle Chad Ashby, c'était sur un site, un jeune, apparemment c'est un jeune prédicateur, il dit ceci, il dit « Faire preuve d'hospitalité est un combat. » Il dit « Satan vous convaincra de 6 façons avant le dimanche que vous... » Pourquoi 6 façons? Parce que c'est 6 jours, hein. Avant le dimanche... que vous n'avez pas le temps de partager votre table avec les autres. Qu'il s'agisse de problèmes d'horaire, de pratiques sportives, de fatigue ou de contraintes financières, il y aura toujours une raison de ne pas inviter des personnes à dîner chez vous. Mais l'hospitalité vaut le combat. L'hospitalité vaut le combat. Il dit ceci, c'est très, très comique, il dit « Lorsque vous examinez votre cuisine à la fin de la nuit, de la journée, et qu'elle est remplie de vaisselle sale, de piles d'assiettes dans les éviers débordants, de casseroles et de casseroles graisseuses, puissiez-vous réaliser que ce sont les armes bien utilisées de notre guerre contre les ténèbres ? Ce sont des armes que vous avez utilisées pour édifier quelqu'un, pour partager un peu, ça a servi à cela. Hein ? Il dit, faites de vos louches, de vos casseroles, de vos plaques à biscuits, des armes de confiance dans notre combat pour étendre son royaume. Je trouve que c'est intéressant de considérer comme ça. Et on peut rajouter plein d'autres choses. Notre lit, notre pièce supplémentaire, le fait de dormir par terre. Tout cela, c'est peut-être dérangeant. Mais on peut peut-être avoir une vision différente, quoi, qui consiste à voir cela comme des tremplins, à voir notre salon comme un tremplin qui va être pour d'autres. Peut-être moi, nous, on ne pourrons pas voyager, mais pour un itinérant, pour un jeune, pour un autre, etc., que le Seigneur, quelque chose que le Seigneur va utiliser pour l'extension de son royaume. Alors, je termine, chers frères et sœurs, ici, en disant, est-ce que nous obéissons à ce commandement? Est-ce que nous sommes hospitaliers? Est-ce que nous accueillons les frères, les sœurs, et même ceux qui sont étrangers? Est-ce même que nous réfléchissons à le faire, comme la Bible nous dit? Est-ce que nous le faisons avec intention? Est-ce que nous avons une stratégie pour le faire? C'est ce à quoi Pierre nous invite ici. Il dit, la fin de toute chose est proche. Vous devez exercer l'hospitalité. Vous devez accueillir les frères et sœurs chez vous. Mais vous devez aussi vous laisser accueillir. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre petit monde. La Bible dit ceci en Proverbe 18, verset 1. Il dit, « Celui qui se tient à l'écart fait ce qui lui plaît et il est contre tout ce qui est sage. » Quand quelqu'un se tient à l'écart en général et se referme, tout ce que vous pouvez lui proposer de bon, il le refuse. Il le refuse systématiquement. Il refuse. Il refuse d'accueillir les autres, mais il refuse lui-même d'être accueilli par les autres aussi. Et la Bible dit qu'il se tient à l'écart, il conteste tout ce qui est. Il est incapable de suivre un bon conseil parce qu'il se met à l'écart. Et il marche contre l'exhortation à l'hospitalité. Il pêche en ce sens. Quand on refuse d'exercer l'hospitalité, quand on refuse d'être accueilli, on pêche devant Dieu. C'est ce que nous devons comprendre ici. Lorsque Jésus, dans son hospitalité, invite l'incroyant à venir à lui et qu'il refuse de venir à lui, il pêche contre Christ. Il en est de même dans l'exercice de notre hospitalité. Lorsque nous ne le faisons pas ou lorsque nous refusons systématiquement parce que c'est un principe chez nous, on ne va jamais chez les autres, nous péchons contre Dieu. Il faut que nous considérions les choses bibliquement et nous n'agissons pas à la gloire de Dieu. Vous avez vu ce que Pierre dit? Il dit ici à la fin du passage, je vous lis rapidement, il dit ceci, il dit « Exercez l'hospitalité et puis il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettez-vous au service les uns des autres. Si quelqu'un parle, ben que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, ça se fait aussi dans le temps d'hospitalité. Si quelqu'un remplit un ministère, ben qu'il le remplisse avec la force que Dieu donne, afin que qu'en toute chose, c'est-à-dire aussi dans l'hospitalité, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Dieu veut être glorifié par notre manière d'accueillir les autres et par le fait que nous nous laissons aussi accueillir par les autres, que nous nous édifions ainsi les uns les autres, que nous ouvrions la porte de nos foyers et que nous acceptons aussi, même si les conditions sont difficiles, elles sont comme elles sont. Parfois on s'entasse, je crois que les jeunes étaient dans un appartement la semaine dernière, ils s'étaient entassés, ils étaient ensemble, mais quelle grâce, quelle joie, n'est-ce pas? d'exercer l'hospitalité. Peu importe la taille de notre maison. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Je sais pas faire la cuisine, mais c'est pas grave, on achète. J'ai lu un grand orateur qui sillonne la planète, qui écrit des bouquins, et puis qui dit, une fois quelqu'un parlait de lui, il a dit, bon, il a reçu, une fois quelqu'un à venir chez lui, ben, ils ont mangé des pop-corn. Il avait aucun complexe. Après, il dit, ouais, ce grand prédicateur, machin, il m'a donné à manger des pop-corn. Non, c'est... ils ont mangé des pop-corn et puis ils ont partagé l'évangile. C'est pas un problème. Il y a un auteur qui a dit ceci. Il dit que c'est toujours attrayant d'aimer lorsque l'amour et le sacrifice se trouvent à l'horizon. Il dit, mais la réalité, dévouement présent, elle est beaucoup plus terrible. C'est-à-dire, c'est facile de dire, oui, je me sacrifierai, oui, je ferai ceci, oui, je ferai cela. Il dit, non, mais dans la situation présente, comment tu exprimes cet amour, cette hospitalité? C'est là qu'il faut montrer vraiment, avec ce que tu as, pas avec ce que tu n'as pas, avec ce que tu as, comment tu exprimes cela. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Quel engagement prenons-nous aujourd'hui de mettre cette parole en pratique? En tant qu'Église, est-ce que j'aurai l'œil sur ce que Dieu envoie? Je les vois arriver. Je dis, ah, cette personne, on ne la connaît pas. Je vais aller vers elle. Je vais l'accueillir. Elle est toute seule. Je vais l'inviter chez moi. Est-ce que je suis prêt à le faire aujourd'hui même? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. C'est jamais demain, c'est aujourd'hui. Quand on entend sa voix, c'est aujourd'hui qu'il faut répondre. Que Dieu nous aide. Et je peux vous dire que je suis le premier à avoir besoin de tout cela, tout ce que je viens de dire. Je suis le premier. Parce que parfois on trouve des excuses pour ne pas faire. Mais puisse la parole du Seigneur toucher nos cœurs à tous et nous aider à ressembler à Christ qui nous a accueillis sur la croix avec ses bras grands ouverts, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui a dit aux disciples qui lui demandaient, où demeures-tu? Venez, viens et vois. N'est-ce pas? Il n'avait pas un lieu, mais il disait, viens et vois quand même. Et ne nous laissons pas tromper par le diable, qui nous aide à trouver mille et une circonstances. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu nous conduises dans ta parole. Nous avons besoin de ta direction. Nous reconnaissons et nous confessons notre manquement dans ce domaine. Mais Seigneur, tu veux nous transformer, tu veux nous donner la joie de partager ce que tu nous donnes avec les autres. Tu veux nous donner la joie d'édifier les autres, d'être un instrument qui peut aider les autres à grandir dans ta connaissance, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous débarrasser de tous les préjugés, de toutes les excuses, de tout ce que nous pouvons trouver et qui nous empêche d'être sensibles même à ceux qui nous visitent parfois dans nos églises, Seigneur. Tellement nous sommes pris avec notre petit cercle habituel. Aide-nous, Seigneur, à être rempli de l'amour, de ton amour, toi qui as quitté le ciel pour venir jusqu'à nous, toi qui nous prépares une place afin que nous soyons avec toi, que tu nous remplisses des mêmes pensées pour la gloire de ton nom.